Nous allons commencer d'abord par la prière. Seigneur notre Dieu, comme d'habitude, tu as parlé encore ce matin. Et Seigneur, c'est une joie que de voir cette communion fraternelle, de voir, Seigneur, que tu parles au cœur. Tu nous permets de vivre cette communion transversale parce qu'il y a aussi cette communion verticale avec toi. Merci encore une fois pour ce que nous allons encore partager comme nourriture spirituelle, en sachant que le plus important, c'est qu'on reçoive ces paroles dans son esprit, dans son cœur, au-delà de sa tête. Et si tu le permets, ça passe aussi par la tête. Encore merci et que ta volonté se fasse. Amen. Donc nous continuons notre voyage à travers l'évangile de Marc. Et cette fois-ci, nous sommes toujours dans le chapitre 10. Et ça va être verset 13. Au départ, quand j'ai commencé à préparer ce message, le message partait du verset 13 et ça allait même plus loin jusqu'au verset 31. Parce que dans ce passage, vous le connaissez certainement, c'est l'histoire des enfants qui sont amenés par les parents au Seigneur Jésus. Vous voyez? Et les disciples qui les ont empêchés de venir vers le Seigneur. Et le Seigneur, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et nous devons être comme les petits-enfants. Et la suite, donc c'est chapitre 10, verset 13 à 16 aujourd'hui. Mais au départ, c'était aller au-delà, parce qu'il y a un lien, mais vraiment un lien, entre les enfants et le riche. Mais comme le message était trop long, eh ben j'ai coupé en deux. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble l'histoire des enfants, en sachant que le prochain message, c'est en lien avec les enfants. Si je dois résumer, les enfants qui n'ont rien ont tout, le Seigneur, et ceux qui pensent avoir beaucoup sont partis sans rien. Ouais, si je dois résumer l'histoire des enfants et l'homme riche qui obéissait à tout, qui venait vers le Seigneur, il dit « Je fais toute la loi », mais le Seigneur, quand il lui a dit « Abandonne tout, suis-moi », il est parti triste, il avait tout au départ à ses yeux, la richesse, mais sans rien après. Il n'a pas eu le Seigneur. Alors que les enfants qui n'ont rien, ils étaient dans les bras du Seigneur. Voilà. Donc ça, oui, je vous ai donné déjà le titre de tout ce passage. Comme c'est long, donc je l'ai coupé en deux, mais en sachant que c'est ça qui va guider tout mon message. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'histoire des enfants. Donc chapitre 10, versets 13 à 16. Julie. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité. » Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Il y a beaucoup à dire. Vous savez, la parole de Dieu, on peut la prendre, la reprendre plusieurs fois, il y aura toujours un message, même différent, mais en sachant que la colonne vertébrale, c'est toujours le Seigneur. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'ai personnellement reçu. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir la même chose. Vous pouvez recevoir différemment. Gloire à Dieu. Vous pouvez rectifier. Gloire à Dieu. Vous pouvez confirmer ou infirmer. Gloire à Dieu. Mais je ne fais que partager avec vous ce que, personnellement, j'ai reçu dans mon cœur. Je partage avec vous et je vous ai déjà donné un résumé de ce qui lie les deux histoires. Quand j'ai terminé mon message, j'ai trouvé un titre. C'est comme ça toujours qu'on fait en général. On fait son message et après, pas d'après ce message, quel titre je vais donner. Il est réducteur, mais je vais le donner tout de suite, le message d'aujourd'hui. Le titre est le suivant. « Laissez venir à moi », entre guillemets, c'est l'appel de Jésus à son Église. C'est-à-dire à travers nous, le Seigneur nous utilise pour laisser les enfants venir, à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais peut-être des fois, on est des obstacles. Mais... évoquons d'abord le contexte, parce que c'est toujours important de le connaître. Le récit de l'Évangile, selon Marc, les versets 13 à 16, semble assez simple. On le connaît tous. cette histoire. Venez à moi tous les, comme des enfants. Des parents emmènent leurs enfants à Jésus pour qu'ils les touchent et les bénissent. Pourtant, derrière cette scène ordinaire se cache pour moi une révélation spirituelle profonde sur la manière dont Dieu accueille l'être humain et sur la façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour bien comprendre cet épisode, il faut le replacer dans son contexte. Toujours, le contexte a un sens aussi spirituel. Au début du chapitre 10, Jésus quitte la Galilée et se rend en Judée, au-delà du Jourdain. Ce déplacement marque une étape importante de son ministère, car il se dirige désormais vers Jérusalem, où se dérouleront les événements décisifs de sa mission que vous connaissez. Sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus prépare alors ses disciples et la foule à comprendre la véritable nature du royaume de Dieu, qui n'est ni un pouvoir politique, j'insiste bien, ni un pouvoir politique, ni un système religieux. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un système religieux, ni des règles. Même si elle provient de la Bible, on s'appuie dessus. Ce n'est pas cela, le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est tout simplement un lieu où Dieu règne. C'est le règne de Dieu où? Où est-ce qu'il règne Dieu? Avant, il régnait sur une population, il régnait sur un peuple, maintenant il règne dans nos cœurs, parce que nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur par l'Esprit. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans nos cœurs. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'il règne réellement? Est-ce qu'il a son royaume? Est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Est-ce que j'obéis à ses règles en tant que roi? Parce qu'il règne dans nos cœurs. Marc souligne aussi que de nombreuses foules viennent à Jésus. Des personnes de toutes conditions s'approchent de lui. Des malades, des pauvres, des exclus, ou encore des hommes et des femmes en quête de vérité. Jésus les accueille et selon sa coutume, il les enseigne, révélant la volonté du Père et la réalité du royaume. Le Seigneur ne fait pas que des miracles, il enseigne. C'est l'équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Cependant, ce rassemblement se déroule dans un climat de tension. Les pharisiens cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Ainsi, le contexte oppose une foule sincère qui cherche Dieu à des autorités religieuses qui contestent Jésus en utilisant la loi divine. Préparant le terrain pour l'enseignement profond donné à travers la scène des enfants. Et voilà le Seigneur, au lieu de partir dans une théologie, il va utiliser une scène simple de la vie pour donner un message, un grand message profond spirituel. C'est dans ce contexte chargé de discussions théologiques et d'enseignements que se produit une scène inattendue. Des parents s'approchent de Jésus avec leurs enfants pour qu'ils les touchent. Tellement simple. Il n'y a rien à dire. Le geste peut paraître simple, presque banal. Pourtant, il révèle une réalité, une intuition spirituelle importante pour nous, pour l'Église. Ses parents reconnaissent que la bénédiction véritable vient de Dieu et non des disciples. Ils veulent que leurs enfants soient placés sous la bénédiction directement du Seigneur. Suivez mon regard quand on passe par des hommes, y compris qu'on les appelle pape. Directement vers le Seigneur. Mais le Seigneur peut utiliser des disciples pour être des intermédiaires dans la prière. Mais on s'adresse d'abord et surtout et que Seigneur quand on veut emmener ses enfants pour les bénir. Dans la culture juive, il était courant que les parents demandent à un rabbin ou à un homme de Dieu de bénir leurs enfants. Ce geste exprimait un désir profond que l'enfant grandisse sous la protection et la faveur de Dieu. Ainsi, ses parents ne cherchent pas seulement un geste symbolique. Ils reconnaissent en Jésus quelqu'un qui peut transmettre la bénédiction de Dieu. Mais la scène prend immédiatement une tournure inattendue. Les disciples interviennent et empêchent les parents d'approcher. Pourquoi agissent-ils ainsi? Le texte ne donne pas directement, explicitement leur motivation. Il ne dit pas pourquoi, le texte. Mais on peut imaginer, on peut même ajouter d'autres idées, en plus de celles que je vais vous proposer. Moi, je dirais peut-être, pensent-ils protéger Jésus de la foule? C'est possible. Il y a tellement de monde, ils le protègent, ils veulent pas. Peut-être ils veulent pas qu'il soit embêté, il est fatigué. Peut-être veulent-ils préserver une certaine dignité autour du maître. Peut-être considèrent-ils que les enfants ne sont pas assez importants pour mobiliser l'attention de Jésus. Je ne sais pas. Dans la société de l'époque, il faut savoir que les enfants n'avaient pas le statut qu'ils ont aujourd'hui. Ils étaient souvent considérés comme des personnes sans importance sociale. Les disciples agissent donc probablement selon une logique humaine et sociale. On ne veut pas leur en vouloir. Mais cette logique va être radicalement corrigée par Jésus. Il est dit, il est indigné. C'est plus que pas content. Mais il est complètement indigné. Mais ce n'est pas possible que vous fassiez ça. Ce récit est intéressant, même s'il paraît banal, parce qu'il ne se limite pas à un enseignement abstrait. Il met en scène plusieurs acteurs, et ce n'est pas un hasard. Et chacun d'eux révèle une attitude possible face à Dieu. Dans ce passage, nous trouvons Jésus, la foule, les pharisiens, les disciples, les parents et les enfants. Tous interviennent dans l'histoire. Chaque groupe représente une manière différente de se situer par rapport au royaume de Dieu. Au centre de la scène se trouve Jésus. Il enseigne la foule, révèle la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas seulement par ses paroles qu'il révèle le cœur de Dieu. C'est aussi par ses gestes. Lorsque les disciples repoussent les enfants, Jésus s'indigne. Cette indignation est très significative. Elle montre que l'attitude des disciples touche quelque chose de très important dans le cœur de Dieu. Jésus est blessé. Jésus leur déclare, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Cette parole dépasse largement la situation des enfants présents ce jour-là. Elle exprime un principe spirituel qui s'adresse à l'Église. Un principe spirituel fondamental. Personne ne doit être empêché de venir à Jésus. Je le répète. Personne ne doit être empêché de venir à Jésus. La présence des pharisiens dans ce contexte rappelle un autre danger spirituel. Il représente la tentation religieuse de réduire la relation avec Dieu à des règles et à des débats juridiques, j'ajoute théologiques. Leur attitude contraste avec celle des parents qui viennent simplement chercher la bénédiction de Dieu pour leurs enfants. Le récit oppose implicitement deux approches de la foi. Une approche légaliste, les pharisiens, centrée sur des règles. Est-ce que c'est permis que, est-ce qu'on peut que, oui, la théologie qui règne dans l'Église. La deuxième approche, c'est une approche simple et confiante qui cherche la grâce de Dieu. Les disciples occupent une place centrale dans cette scène. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils marchent avec lui, écoutent son enseignement et participent à son ministère. Pourtant, leur compréhension du royaume est encore imparfaite. La preuve, ils empêchent les enfants de venir à Jésus. En empêchant les enfants de venir à Jésus, ils agissent selon une logique humaine, j'ajoute, théologique, morale, que sais-je. Leur attitude révèle que la transformation intérieure n'est pas encore complète dans leur cœur. Ils doivent encore apprendre la logique du royaume de Dieu. Ils sont en chemin. Ils apprennent. Ils sont en apprentissage avec le Seigneur. Un apprentissage qui a besoin, le moment venu, d'une révélation intérieure pour qu'ils comprennent le sens spirituel de la grâce et du royaume de Dieu. Ils ont une connaissance intellectuelle, mais ils n'ont pas la connaissance intérieure La preuve, ils ont refusé. Ils ont interdit aux enfants d'aller vers le Seigneur. En l'absence de cet apprentissage spirituel ou cette révélation dans l'école du Seigneur, les disciples empêchent les enfants de venir à Jésus. Nous voyons là une réalité spirituelle importante. Il est possible, même pour ceux qui suivent le Christ, de devenir involontairement un obstacle pour les autres. Oui, l'Église peut devenir un obstacle d'une manière involontaire, même inconsciente, un obstacle empêchant les autres de venir vers le Seigneur. Les disciples pensent bien faire, mais leur attitude bloque l'accès à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur s'indigne et déclare « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Cette parole révèle un principe fondamental. Personne ne doit empêcher quelqu'un de venir à Jésus, même si sa logique lui demande le contraire. Le rôle du disciple n'est pas d'être un gardien qui filtre l'accès à Dieu, selon ses propres critères ou selon un légalisme qui manque de grâce et d'amour. Le disciple du Seigneur est appelé à être un témoin de la grâce, un facilitateur de la rencontre avec Jésus et un accompagnateur dans la croissance spirituelle. Il ne conduit pas les gens vers lui-même, ni vers un système religieux, ni vers une église, ni vers une assemblée, ni vers une dénomination. Non, seulement vers le Christ. Cette réalité est tout de même encourageante pour nous. Pour nous croyants, pour nous église, même les disciples les plus proches de Jésus ont dû apprendre progressivement avec le Seigneur. Donc nous sommes en apprentissage. Même les disciples ont dû apprendre progressivement à comprendre le cœur de Dieu et à découvrir la grâce et le sens spirituel du royaume de Dieu. Les parents jouent un rôle discret mais essentiel. Ils amènent leurs enfants à Jésus pour qu'ils les bénissent. Ils représentent ceux qui reconnaissent que la bénédiction véritable vient de Dieu et qui conduisent les autres vers lui. Leur attitude est un modèle spirituel. Ils ne cherchent pas à garder leurs enfants pour eux-mêmes, mais à les conduire vers le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, les enfants. Les enfants occupent une place particulière dans ce récit. Ils ne parlent pas. On ne les entend pas parler. Ils ne revendiquent rien. Ils n'osent rien demander. Et ils ne posent aucune question. Ce n'est pas anodin. On ne leur a même pas donné de demander leur avis. Et pourtant, leur présence devient une leçon spirituelle majeure. Jésus déclare, « Le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. » L'enfant devient ainsi une image spirituelle. L'enfant dépend de ses parents. Il fait confiance, il reçoit ce qu'on lui donne. De la même manière, l'homme entre dans le royaume de Dieu lorsqu'il reconnaît son besoin de Dieu et accueille la grâce divine, tout simplement comme un enfant. Ce qui frappe dans ce passage, c'est la manière dont Jésus enseigne, et ça m'a frappé. Il ne donne pas une longue explication théologique. Non. Il prend une situation simple de la vie quotidienne et en fait une leçon spirituelle profonde. Dans ce contexte marqué par les foules, les débats religieux, les questions complexes, Jésus révèle la vérité du royaume à travers les petits-enfants. Cela montre que le royaume de Dieu ne se comprend pas seulement par l'intelligence ou par les discussions théologiques. Souvent, on essaie de comprendre. Le royaume de Dieu se comprend par l'expérience intérieure, par la révélation de la grâce, par l'humilité du cœur. Et ça, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de diplôme. En conclusion, la scène où Jésus accueille les enfants n'est pas seulement un épisode touchant l'Évangile. Elle contient un enseignement profond pour la vie chrétienne et pour la manière dont l'Église doit vivre et accueillir. Elle nous interpelle, nous invite à examiner nos attitudes, nos pratiques et l'état de notre cœur. D'abord, Veillez à ne jamais empêcher quelqu'un de venir à Jésus. Le premier avertissement est clair. Ne pas devenir un obstacle à la rencontre avec le Christ. Les disciples pensaient bien faire en empêchant les enfants de s'approcher de Jésus. Mais leur attitude est sévèrement corrigée par le Seigneur. De la même manière, il peut arriver que des croyants ou des communautés chrétiennes, parfois sans le vouloir, mettent des obstacles devant ceux qui cherchent Dieu. Cela peut se produire lorsque les traditions humaines prennent plus de place que l'Évangile. Les exigences religieuses deviennent écrasantes ou l'accueil disparaît au profit du jugement. Chaque chrétien doit se poser cette question. Est-ce que mon attitude rapproche les personnes du Christ ou les en éloigne? Et c'est une question que chacun de nous, nous devons nous poser dans notre marche avec le Seigneur. L'Église n'est pas appelée à être un filtre ou un tribunal spirituel, mais un lieu où les hommes et les femmes peuvent rencontrer la grâce de Dieu dans l'accueil. Deuxième, recommandation ou avertissement. Le Seigneur nous appelle à accueillir les plus faibles avec douceur. Jésus montre une attention particulière aux enfants, c'est-à-dire aux plus petits, aux plus vulnérables. Spirituellement, cela nous rappelle que beaucoup de personnes dans l'Église sont encore fragiles dans leur foi. Nouveaux croyants, personnes blessées par la vie, ou chrétiens qui traversent des périodes de doute ou des épreuves. Ces personnes ont besoin de patience, de douceur et d'encouragement. L'Église doit être un lieu où l'on accompagne les personnes dans leur croissance spirituelle. La maturité chrétienne ne consiste pas à juger les plus faibles, mais à les porter et les aider à grandir. Troisièmement, se garder du légalisme. Le passage rappelle aussi le danger du légalisme religieux. Lorsque la foi se réduit à un ensemble de règles de performance spirituelle, elle peut éloigner les personnes de la grâce de Dieu. N'oublions pas que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes graciés. Aucun de nous n'est supérieur à l'autre. On a un point commun, nous sommes tous pécheurs, nous méritons le jugement et nous bénéficions de la même grâce. Donc nous devons nous agenouiller devant sa frère et sa sœur au lieu de s'élever. L'Évangile nous rappelle que le royaume de Dieu se reçoit comme un enfant, avec humilité, confiance et dépendance. La vie chrétienne ne commence pas par les œuvres, mais par l'accueil de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on réalise réellement la grâce? Ainsi, l'Église doit toujours veiller à annoncer d'abord la grâce dont nous bénéficions et nous ne sommes pas propriétaires. Mais cette grâce est offerte à tout le monde et ce n'est pas à nous de juger le degré du péché de la personne pour dire qu'elle bénéficie de la grâce ou pas, parce que si moi j'ai bénéficié de la grâce, n'importe qui peut en bénéficier. Et enfin, conduire les autres vers Jésus. L'exemple des parents qui amènent leurs enfants à Jésus nous rappelle notre responsabilité. Nous sommes appelés à conduire les autres vers le Seigneur, dans la prière ou physiquement. Nos enfants, nos proches, nos frères et sœurs dans la foi, ou pas. Cela se fait par notre témoignage de la vie, par la prière, par l'enseignement de la parole et tout simplement par l'exemple d'une vie transformée dont nous n'avons pas besoin de parler, mais notre conduite témoigne de notre foi intérieure. Le disciple n'est pas le centre de la foi, il est simplement celui qui montre le chemin vers le Christ. Ce passage nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui viennent à Jésus avec un cœur humble et ouvert comme un enfant. Que l'Église, mes frères et sœurs, demeure donc un lieu où les petits sont accueillis, où les faibles sont encouragés, où la grâce de Dieu est annoncée et où chacun peut s'approcher librement du Seigneur. Car l'appel de Jésus reste toujours le même. encore plus aujourd'hui, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Que le Seigneur nous aide. Amen.